Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos lectures en liberté et la suite du roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement. Angéline sentit son corps trembler de faiblesse. Elle était soudain si fatiguée. Mon bel amour, gémit-elle, mon grand fils, mon pauvre bébé. Elle se mit à pleurer. Angelo n'avait jamais vu une larme sortir des yeux de sa mère, à croire qu'elle n'était pas comme les autres, faite seulement d'eau, de sang et de tourment. Il se courba contre elle, posa sa tête sur le renflement des seins. Elle avait une grosse poitrine maintenant amollie comme un paquet de beurre et qui semblait plus petite parce que le ventre avait pris de l'importance, était sorti de lui-même à force d'avoir mangé des patates à cochon. « Et de l'air quand il n'y avait rien, » disait Angéline. « Oui, avait-elle dit à Esther, c'est vrai, j'ai déjà avalé de l'air exprès pour me boucher la faim. Ça te dit quoi, ça ?» Et maintenant, le gros ventre tremblotait dans les sanglots. Mais elle se reprit. « Allons, » fit-elle, se redressant, « tu vas réfléchir. Attends quelques jours, ne pars pas sur un coup de ta tête. » Et elle lui retirait ainsi, sans le poncer, la seule manière possible de partir. Elle avait le teint terreux d'un brun gris à peine délavé par les larmes, comme une morte dont le sang ne montait plus jusqu'aux joues. Angelo trembla de la voir sale, ravagée. L'idée de sa mère blessée ou défunte était insoutenable. Il la prit par les épaules et la tira contre son grand corps triste. Il la tenait sans bouger, soufflait dans le cou ridé son haleine chaude. Elle resta silencieuse contre lui. Elle sembla disparaître dans ce silence. Elle mourrait. Il le sut davantage à ce moment, et il resterait seul avec les traces, l'amour, la mémoire de l'amour et les larmes. Pouvait-il partir tant qu'elle était vivante à son côté, sa mère qui l'avait engendrée, l'avait nourrie, la seule femme qui l'eût jamais bercée? Il ne le pouvait pas. Et de fait, jamais il ne se décida à partir. Il aurait fallu pour cela qu'il sût la voir pleurer en pensant qu'au retour il la surprendrait à sourire. Mais il n'imaginait pas que les larmes finissent. Peut-être croyait-il qu'on ne fait pas à une mère la blessure de la quitter parce que cette plaie ne se referme jamais. Ou bien il ignorait que les autres continuent de vivre hors de nous, qu'ils ne meurent pas toujours pendant que l'on voyage. Alors il resta. Il resta même quand trois s'en allèrent dans la brume avec leurs sacs et leurs peines, s'en allant parce que ce n'était plus tenable de se faire tabasser par un fou. Car Elena s'en alla. Elle avait dit la vérité à ses filles, imaginait l'avenir. Su qu'il serait difficile, elle avait essayé de rester. Mais Simon tourbillonnait dans ses orages. La vieille le savait sans le laisser dire. Simon était fou. Abîmé dans d'obscurs désespoirs, dans ses monologues et ses rages, il venait au cou parce que les mots ne lui venaient pas. « T'as pas de mots, c'est pour ça que tu tapes », disait Elena. Elle essayait de parler avec lui. N'était-il pas son mari? Ne l'avait-elle pas aimé? Enfin, se demandait-elle, l'avait-elle aimé? Oui, pensait-elle, avec la nostalgie des premiers moments. Une simplicité était entrée en elle à côté de lui. Il n'y avait qu'à être. Et maintenant, tout était si compliqué. Ils avaient eu cette chance et voilà ce qui en restait. Elle ne pourrait jamais croire un autre homme qui dirait « Elena, je t'aime ». Oh, comme elle rirait de s'entendre dire ces mots vains, ces mots qui s'épuisent et meurent, et elle pleurerait de ne pouvoir suivre un tel homme. Elle regardait Simon. « Fais quelque chose !» suppliait-elle. « Et pourquoi ?» disait-il. « Tu ne sais quoi faire, c'est ça qui te ronge, » expliquait-elle. « Tu n'existes pas. » « Vois, disait-il, j'existe, je fume. »« Essaie de faire quelque chose, » répétait-elle. La colère le reprenait aussitôt qu'il entendait la foutue vérité de sa vie qui ne valait rien. Par-dessus la petite table de formica brun, il allongeait le bras pour la gifler. Il frappait de toute sa force. C'était aussi cela, sa folie. Elle n'avait pas le réflexe de s'écarter et ensuite son oreille résonnait pendant plusieurs minutes et elle ne disait pas un mot. Elle partait se coucher avec ses filles dans le grand lit qu'il leur avait abandonné parce que Elena refusait de dormir avec lui. Un peu plus tard, après qu'il avait ruminé dans la nuit, Simon s'allongeait tout habillé sur la banquette du coin repas. Son regard noir restait ouvert sur l'espace encore éclairé par les réverbères de la rue. Il regardait le pied de la table. La colère tombée ne laissait en lui que du vide. Et dans l'obscurité intérieure du remords silencieux, il s'endormait. Elena et ses filles s'en allèrent après le nouvel an. Elles se glissèrent dans l'aube givrée pendant que le père dormait. La veille encore, il avait levé son bras comme s'il fendait du bois, mais c'était sa femme qu'il allait abattre. Elle avait éclaté d'un rire à la limite du sanglot et de la toux. « Frappe, frappe !» criait-elle. « Parce que c'est la dernière fois, frappe et regarde-moi te quitter !» Elle pleurait et riait de plus en plus fort, épuisée et vivante, grimaçant sa folie entre les larmes. Il en fut saisi en même temps qu'elle hurlait « Je te hais ! Si tu savais comme je te hais !» Plusieurs fois, elle le hurla comme si elle avait voulu le faire entrer de force dans ses oreilles. « je hais ta folie !» Il ne savait pas combien c'était de ressentiment, de mépris, mais il entendit que c'était irrémissible. Il avait perdu sa femme. Au fond de lui, où se tramaient ses folies, une voix lui souffla qu'il avait fait cela seul, forger cette haine. Il regarda Elena avec des yeux vidés par la stupeur. Mais il ne trouvait plus les gestes. À ce moment précis, il l'aurait voulu et elle avait désiré longtemps qu'il le retrouvât. Elena retomba sur la table et se mit à sangloter. Le lendemain, elle poussait Anna et Priscilla vers la porte dans l'obscurité glacée du dehors. Elles jetèrent un coup d'œil vers leur père. Il était à moitié tombé de la banquette en dormant. On apercevait les poils noirs de son ventre entre son pantalon et sa chemise. Il ronflait, épuisé par sa rage. Ce n'était pas joli à voir, spécialement pour deux fillettes. Elena les pressa de sortir. Dehors, elles frissonnèrent d'effroi, de tristesse ou de froid. Elles n'en disaient rien, et comme deux petits robots faisaient se coordonner leur mère. Des traînées volantes de brouillard blanc traversaient la nuit et l'immense silence. Il était tôt encore. « Par ici, » dit Helena. « Où on va ?» demanda Anna. « Dire au revoir à votre grand-mère. » Et elles marchèrent vers la caravane d'Angéline. Helena frappa à la porte de la vieille. Angelo vint ouvrir. Il était réveillé. Angéline ne se sentait pas bien. Helena l'entendit dans la voix atténuée qui se levait du lit. « Tu sais ce que tu fais, ma fille, » disait la voix. Et malgré la réprobation qui perçait, elle était moins sonore qu'à son ordinaire. « Vous, » murmura Angéline au petit, « oubliez pas de revenir me voir. » Elle se tint assise pour les embrasser. Anna découvrait sa grand-mère sans sourcils, qu'elle avait épilé complètement, avec ce visage nu et ridé à quoi il manquait quelque chose. Mais on ne savait pas tout de suite ce que c'était. Angéline n'eut pas un mot pour Helena. Elle aurait pu dire qu'elle comprenait, car elle était aussi une femme et elle avait été une épouse. Mais elle pensait qu'une épouse ne part pas, quoi qu'il advienne. Et les mots ne lui vinrent pas. Le fils était fou, mais elle aimait le fils. Et elle n'avait jamais aimé cette belle fille. Le sang en elle parlait injuste et défendait son enfant. « Tu sais ce que tu fais, » répéta-t-elle. Angelo embrassa Helena. « Que Dieu vous protège, » dit-il. « Voilà le monde à l'envers, » pensa-t-il. Sa mère avait dit les mots qui auraient pu être les siens et il avait parlé comme la vieille. Approcher Helena le troubla. Autrefois, il avait eu l'éblouissement de son visage sauvage. Il se recula. Elle partit embarrassée. Mais poussé par ce qui était en lui, cet appétit suspendu et le malheur de l'amour, il la serra dans ses bras. « Vie !» souffla-t-il. Elle fut transpercée par le mot et confortée à ce moment de quitter un époux et de finir un amour. Sa bouche lasse, qui ne donnait plus de baisers depuis longtemps aux hommes, se posa sur celle de son beau-frère et, dans le même temps qu'elle l'embrassait, s'étira dans un sourire. Il sentit le baiser, puis la chair qui se détachait de la sienne, sollicitée par un autre mouvement. Alors il prit Helena par les épaules pour la regarder dans les yeux et redire « Fais-toi une autre vie ». À l'intérieur, Angéline s'impatientait. « Angelo !» Il rentra. Se retournant encore une fois sur le visage grave d'Helena, puis disant à sa mère « Qu'est-ce que tu veux ?»« Je disais au revoir à Helena. » Angéline était assise dans son lit avec ses cheveux détachés qui lui tombaient très bas, de ce gris-brun semblable au bois qu'elle brûlait.
Yeah.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Grâce et dénuement, Alice Fernet. Dehors, les belles sœurs s'embrassaient. Misia se mit à pleurer et Milena se tenait à côté d'elle pour la consoler. Les enfants s'étaient levés aussi, ahuris, découvrant ce que ça voulait dire qu'Anna et Priscilla allaient partir avec leur mère. « On va plus les voir, » disait Anita à Michael. « Ouais, » dit-il, « comme si elles étaient mortes, mais qu'elles n'étaient pas mortes. » Et à l'idée des cousines mortes, ils se turent tous les deux. Ils les regardaient à la fois intimidés et transis, ne sachant quoi faire de leur corps, car ce n'était manifestement pas un moment pour jouer et courir. À la fin, Lulu embarqua la mère et les filles dans son camion. Il les poserait à la gare. Il faisait trop froid pour marcher, et les petites seraient fatiguées, dit-il, ouvrant la portière haute et aidant les filles à grimper sur le marchepied. « Et ton essence ?» dit Elena. « Bof !» fit-il. Ils roulèrent dans ce qui était resté de la campagne d'avant la ville. Les champs dormaient encore et la terre gelée, retournée par gros paquets, semblait lourde et morte. Ça ne crépitait pas, ça ne germait pas, et tout était silencieux. Le chauffage du camion était cassé, Elena avait les larmes au bord des yeux quand elle regardait Lulu qui s'appliquait à conduire pour ne pas avoir à parler. « Tu penses que j'ai tort ?» dit-elle à son beau-frère. Il bougonna. « Moi, je pense rien du tout. » Elle se tut. Et pensant, comme sa belle-mère, que les hommes ne sont pas courageux, elle résolut de l'être pour deux. Et quand elle descendit du camion, embrassant Lulu et le remerciant, elle avait déjà changé de visage. Elle commençait une autre vie. Elle se le répétait en marchant vers la gare. Elle n'en disait rien à ses filles, mais elle était là maintenant plus légère, qui avançait dans le froid sans le sentir. Il lui sembla qu'aux enfants on ne pouvait déjà raconter les ruptures, les traits qu'on tire sur le passé et les amours qui s'égarent, et que tout cela ne vous tue pas et peut vivifier ce qui reste en vous d'élan et de sagesse. Elle songea à Simon quand il s'éveillerait, abandonné. Pensez à lui pinçait encore quelque chose en elle. Elle le sut tout à coup. Elle sentait presque sur son corps la modification, et c'était possible, puisqu'elle portait les traces, sinon des caresses, du moins de certains coups. Elle ne serait jamais la même qu'avant l'amour de Simon. Même un homme que l'on quitte en se sentant légère et sans regret, on ne se défait pas de son empreinte, pensait-elle. Mais ce fut aussi un réconfort d'être sûr qu'il restait une trace. et cela, elle décida de le dire à ses filles. Avec d'autres mots, des mots plus beaux encore que ceux qui lui étaient d'abord venus. Tout en marchant d'un bon pas, Anna et Priscilla étaient presque à courir à côté d'elle, et dans l'air glacé, les paroles sortaient d'elle en nuages. « Votre père, dit-elle, votre père, je l'ai aimé. Quand nous vous avons faites l'une et l'autre, nous nous aimions. » Les petites filles regardaient par terre et ne disaient rien comme si elles n'avaient pas entendu. Mais Elena devina quel tressaillement en elle secouait le malheur. Et d'ailleurs, plus tard, assises dans le train de banlieue, elles auraient pour regarder défiler les vilains paysages des visages sereins. Elle leur prit la main, une de chaque côté, et c'était soudain comme d'emporter les filles, de les enlever. Oh, pensa-t-elle avec orgueil, Simon allait découvrir ce que c'est de perdre sa femme et sa famille, perdre une partie de soi-même et ne pas savoir quoi faire de l'autre. Une femme avait ce pouvoir quand elle n'avait rien d'autre. Il allait savoir ce que lui valaient les coups qu'il avait donnés, de ne plus vivre avec ses filles. Oui, c'était aussi cela qu'elle faisait, lui retirer ses enfants. « Il ne les mérite pas, se dit Elena. Elle n'alla pas plus loin dans la pensée de ce qu'elle commettait. Simon serait coléreux pendant quelques jours et elle se demanda sur qui passerait cette colère. Mais ce fut tout ce qu'elle concéda à cette question et elle hâta le pas vers la gare. Ce fut le début des malheurs. Angéline n'en convint jamais. Elle était de la race farouche qui nie la blessure en reniant celui qui l'a causée. Pas une fois, elle ne prononça le nom d'Elena. Elle n'avait jamais aimé cette belle fille. Depuis le départ, les petites n'étaient pas revenues. La vieille s'en fit une preuve. Leur mère ne valait rien. Mais le fils en avait été amoureux. Et elle ne pouvait rien contre cela. Sa rage à lui ne resta pas cachée. La première nuit, à coups de barre de fer, il défonça la caravane. Il jurait, hurlait ce prénom Elena, dévoilant leur secret en menaçant la nuit froide. Le souffle qui sortait de lui comme une brume à la fois humide et haletant semblait celui d'une bête. Puis il se remettait à taper. Cette nuit-là, les autres restèrent immobiles dans leur lit, des gisants effarés. Angéline l'avait ordonné que personne ne s'en mêlât. Milena se bouchait les oreilles et elle avait demandé à Carla et Michael de le faire aussi. De toute façon, ils entendent quand même, finit par dire Joseph, qui en avait assez de se retrouver seul au milieu de trois sourds et des cris d'un fou. Le dépit de Simon se déclina de la colère à l'apathie. Il arpentait le terrain en lançant des coups de pied dans les cailloux. Un matin, Carla reçut un silex dans l'œil. Milena accourut aussitôt. « Qu'as-tu fait ? » demanda-t-elle à son beau-frère. Et puisqu'il ne répondait pas, Misia le gifla avec une calme détermination. Il en perdit en même temps sa force et sa colère. La plus douce de ses belles sœurs venait de le frapper. Sa joue le brûlait encore quand ce constat le traversa comme un pieu. Misia s'était détournée d'un mouvement désinvolte. Elle se moquait bien qu'il souffrît, pensait-il. « Maintenant tu sais ce que tu faisais à ta femme, » dit Milena. Il n'avait pas pensé à cela. Elle scrutait l'œil de sa fille. La fillette pleurait. « Chut, c'est fini, t'as rien, » disait la mère. Et Simon se mit aussitôt à pleurer. Il entra dans une stupeur mélancolique. La gifle l'avait coupé en deux, le séparant de la partie qui en lui était folle et forte. Il s'abandonna, sale, dévêtu, pieds nus dans le froid. « Tu sens mauvais, oncle Simon, » lui disaient les enfants. Il ne répondait pas. Et cependant, il épiait les autres qui auraient pu parler de lui. « Je te vois même quand t'es pas là !» soufflait-il à Esther. Elle avait peur de lui. « C'est insupportable !» pensait-elle. Et elle disait à Angéline, « Ton fils, il faut le faire soigner. » Mais la vieille ne voulait rien entendre. Quand Esther lisait, Simon venait s'asseoir en face d'elle. Sans que l'on sût s'il le faisait exprès, il s'asseyait dans une flaque. Les genoux de chaque côté du menton, les pieds rouges et crasseux, il la fixait obstinément. Lorsqu'elle levait les yeux du livre pour le surveiller, il faisait un de ces sourires de photographie trop posés. Et quand elle le regardait longtemps, résistant aux injonctions impatientes des enfants, il penchait sa tête lentement jusqu'à la cacher sous son bras et regardait Esther d'un seul œil. « Mon Pinocchionnet, comment as-tu fait pour te brûler les pieds ?» Les pieds de Simon barbotaient dans l'eau boueuse. Les enfants riaient sous cape. Esther reprenait. Simon sautait sur ses pieds. « T'arrête pas !» disaient les enfants. Sans leur plaisir, Esther se serait levée, mais elle continuait de lire et les petits écoutaient. « Ne le jette pas, tout peut servir en ce monde !» Esther prêtait à Geppetto une pauvre voix gentille. « Jamais de ma vie je ne mangerai un trognon !» cria le pantin en se tordant comme une vipère. Elle avait pris un ton aigu qui les fit rire. « Quand sait-on ? Tant de choses peuvent arriver !» répéta Geppetto sans s'énerver. Forcément, on s'occupa de Simon. « En ville, il peut faire une connerie, » fit remarquer Lulu un soir qu'il parlait avec ses frères. « Ouais, » dit Angelo, « faut plus qu'il quitte le terrain. Il faut le surveiller, » conclut Antonio, qui était toujours à rôder. Il s'en chargeait à tour de rôle. Les femmes se lassèrent. Rien ne remplace le sang, le lien de chair et d'enfance qui unit les frères, les sœurs et personne d'autre pareillement, pas même les amants. Et d'ailleurs, Elena était la première à s'être lassée. « On n'est pas ses parents !» dit un soir Milena à son mari. « Non, mais c'est tout de même mon frère !» dit Joseph. « Je ne me moque pas complètement de ce qui lui arrive. » Elle haussa les épaules. « Il a ce qu'il mérite !» dit-elle, répétant là ce que disaient Nadia et Misia. « Même Misia, elle le pense !» Comme si c'était une preuve. Car Misia défendait le mariage, une manière de solidarité sans condition, ce que tisse entre les femmes le soin constant des enfants, les heures passées aux mêmes tâches et soucis apparaissaient sous une forme concrète. Angéline fut seule à jeter le blâme sur la fugueuse. Car, disait-elle, on ne part pas, on n'a pas le droit de partir. Elle le répéta plusieurs fois à Esther. « C'est ça, le mariage tzigane. Sur l'honneur, on part pas. Même quand le mari sait pas rapporter l'argent. » Elle pensait à elle. « Même quand le mari boit l'argent. » Et disant cela, elle tournicotait un bâton dans le feu avec agacement. « Où est l'honneur de la femme qui est battue ?» pensait Esther. « Que pouvait l'honneur face à la folie ?» L'honneur, répondit Esther, c'est de faire soigner celui qui est malade. Pfff ! Fit la vieille comme une vache. Il est soigné, le Simon, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Elle avait mis ses deux mains à plat sur ses hanches. Qu'il aille à l'asile avec les fous ? Esther baissa les yeux. Je ne sais pas, dit-elle, je ne sais plus. La vieille hocha la tête. « Pauvre fée, dit-elle, on est tous fous ici, hein ?» Elle cracha dans le feu. Les belles filles respectaient la vieille. « Il faut comprendre, disait Nadia. C'est une autre génération. Tu connais la mère qui emmène son fils chez les fous ?» disait Misia. Voilà, nous avons terminé pour ce soir, donc... Ce roman de Alice Fernet, Grâce et dénuement, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.